sur Blueprint. Salut à tous et bienvenue dans La Cartouche, le podcast du jeu vidéo d'aujourd'hui. Je m'appelle Lou Lassina-Foubert, auteur chez Third Editions et social media manager chez West France. Et toi, c'est Yann Rieder, tu travailles entre autres pour Gamekult et Red Bull Games. Salut Yann, comment ça va si j'arrive à prononcer ton prénom?
Eh ben, ça va bien. Et pourtant, quatre lettres, deux syllabes, ce n'est pas si compliqué. C'est un petit peu comme Lou, tandis que avec notre invité, on a un petit peu plus de syllabes, mon cher Lou.
Mais oui, tout à fait, nous sommes en compagnie de Lucille, alias Luxbox, que l'on reçoit pour parler du jeu, parce qu'elle l'adore, et tu adores ce jeu, n'est-ce pas Lucille?
Oh que oui, mon gothi de la vie, comme je le dis souvent.
Ah, quel suspense, mais de quel jeu allons-nous parler mon cher Yann?
Eh bien je me demande bien, s'agirait-il par hasard de Animal Crossing New Horizons, sorti il y a une petite semaine sur Nintendo Switch?
Ah mais tout à fait, c'est ce jeu-là. J'ai envie de vous demander d'abord, depuis quand avez-vous le jeu Lucille par exemple?
Ah bah Day One, à minuit une, je l'avais lancé.
Et toi, Yann ?
C'est la même chose en fait. Mon master plan à la base, c'était de recevoir un code presse pour la première fois de la part de Nintendo, mais il y a ce petit truc en dehors qui s'appelle une pandémie, et visiblement ça a désorganisé le monde entier, ce qui fait que bah, malheureusement voilà, j'étais clairement pas prioritaire sur ce jeu-là, comprenez bien. Et donc, j'ai dû passer mon tour. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, je l'ai pris sur l'eShop, tranquillement, pop, et comme Lucille, à minuit une, et comme je crois plus de 10 personnes dans ma liste d'amis à ce moment-là, j'étais sur Animal Crossing New Horizons. Pour toi, Lou, ça s'est passé comment ?
Oh bah pareil, j'ai fait une précommande comme d'habitude qui n'a pas été honorée du coup vu le contexte actuel, et ça a été direction eShop également pour pouvoir en profiter le plus vite possible malgré tout, malgré la petite différence de prix aussi, mais bon, quand on aime on ne compte pas. Quel est votre passif avec la série du coup? Quand est-ce que vous avez commencé Animal Crossing, Lucille?
Alors moi j'ai commencé Animal Crossing avec la version sur GameCube.
À la toute première chez nous donc.
Voilà, alors la GameCube appartenait à ma frangine, et si j'étais dans ses petits papiers, j'avais le droit de lui emprunter la GameCube et de pouvoir jouer à Animal Crossing. Donc ça a commencé assez tôt puisque c'est le premier titre qui est sorti en Europe. Voilà, et puis après j'ai continué sur absolument toutes les plateformes, je les ai tous eues, avec une petite préférence pour les versions sur console portable.
Ah bah pareil.
Voilà,
c'est
la version
marrant,
Wii par exemple m'a beaucoup moins passionnée, je trouvais que la prise en main était moins facile, alors que la version DS et 3DS, ce sont celles sur lesquelles j'ai passé le plus d'heures.
Ah, j'ai le même parcours et j'ai le même ressenti. Ce qui me dérangeait aussi au niveau de la version Wii, c'était la ville en fait finalement, qui je trouve ne collait pas trop à l'ambiance. Enfin je sais pas, il y avait un trop grand décalage par rapport à ce qu'on connaît d'habitude d'Animal Crossing, le côté un peu plus roots finalement qu'on retrouve dans New Horizons. Toi du coup Yann, tu as découvert comment Animal Crossing?
Alors découvert, je me souviens pas. Moi ce que je me souviens, c'était qu'autour de mon anniversaire, il y a de ça très très longtemps, j'avais reçu la version DS. Peut-être que je l'avais demandé à mes parents, mais vraiment j'étais tout minot quand il était sorti, on était en 2005, donc je devais avoir quoi, 13 ans peut-être, 2005, 2006, 2007, je sais plus exactement quand c'était, mais il était sorti pendant au début de l'époque DS, si je dis pas de bêtises, Animal Crossing Wild World. J'avais dû en lire des trucs dans des magazines et me dire, oh, mon dieu, ça a l'air incroyable, et je m'étais plongé là-dedans à fond, ça m'avait énormément plu. Du coup, sans trop d'hésitation, j'avais pris la prochaine version portable, qui était la version 3DS. Et puis, depuis, comme tout le monde, je me suis bien embêté en termes d'Animal Crossing. J'ai attendu un nouvel épisode qui n'est pas venu sur Wii U. Et donc, il est là sur Switch après 3 ans d'existence de la console transformable de Nintendo.
Après moult reports aussi, elle était attendue pour l'année dernière.
C'est vrai.
Mais il arrive dans un contexte qui lui est quand même sacrément favorable, le confinement, ce qui fait qu'il nous a fait un magnifique record de vente, hein, oui. 1,9 million en semaine de sortie, ce que la série n'a jamais égalé. J'étais me penché du coup sur les chiffres. Le tout premier Animal Crossing, qui était donc sorti sur Nintendo 64 au Japon, c'était 36 000 exemplaires lors de sa sortie. Donc la série a quand même bien progressé depuis. Ce nouvel épisode, du coup, la première chose qui change, je pense, et qui marque le plus, c'est évidemment l'évolution de l'aspect graphique. Comment vous l'avez accueilli de votre côté?
Ah, c'est beau.
Oui.
C'est magnifique, les effets visuels sur l'eau, tous les petits personnages, les effets de texture sur les animaux. Vous avez des poissons et des insectes avec des reflets sur la carapace.
Oui,
c'est
la modélisation des insectes est incroyable.
C'est magnifique.
Et des poissons aussi, oui, tout à fait.
C'est vraiment un jeu qui est beau à regarder, qui est agréable, qui est hyper fluide et qui transporte, je trouve.
Et qui garde pourtant toujours cette patte un petit peu simple, voire simpliste malgré tout, mais qui a un souci du détail en même temps. Enfin, c'est assez fascinant, je trouve, ce pointillisme, on va dire, au niveau d'un côté très mignon et très très simple en même temps. Enfin, je trouve que c'est un très 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 bel équilibre en tout cas qu'ils ont réussi à trouver.
C'est un de ces quelques jeux Nintendo Switch qui sont beaux même en capture d'écran. C'est pas facile à faire, hein. On connaît les limitations techniques de la console. D'autres dans le même genre, il y a également Mario Kart 8 Deluxe qui est magnifique même en screenshot. Là, c'est poliché comme pas permis. Donc effectivement, c'est très frappant de voir cet univers-là qu'on a connu sur un écran à résolution extrêmement limitée, hein. Qu'on parle de la DS, qu'on parle de la 3DS, qu'on parle également à quelle résolution outputait la Wii, c'était très très peu. En termes de diagonale d'écran, en termes de nombre de pixels. Donc, nécessairement, avoir une belle upgrade HD comme ça, c'est très chouette. Après, j'attirerai l'attention sur un point, qui est ma petite déception, c'est que ça c'est clairement fait, au détriment du 60 images par seconde. Là, on a un jeu qui tourne en 30 FPS, et même si on n'est pas du tout, et ça m'avait surpris en jouant ces derniers temps la version DS, à l'instabilité de la version DS, qui est vraiment LED et qui je pense est en dessous des 30 images par seconde, on se demande quand même un petit peu, enfin c'est quand même un petit peu dommage de pas avoir un jeu encore plus délicieux, fluide, sous la main. Moi ça m'a un petit peu frappé, on voit un petit peu la compromission justement pour en faire le jeu le plus esthétiquement beau, le plus esthétiquement plaisant à l'œil. Ça vous a marqué ça, le 30 images par seconde sur ce jeu?
Pas spécialement, non.
D'accord.
Pas du tout.
En tout cas, le framerate est très stable. Hein,
comme disait Lucille, il est surtout très très fluide en fait, et du coup, c'est,
oui.
ça passe crème.
Il atteint sa cible à 100%, ça c'est clair.
Il y a une chose surtout qui m'a interpellé. Je sais pas si c'est une impression ou si c'est réellement le cas. C'est que je trouve, enfin, l'impression de rotondité, la courbe de la Terre me paraît moins marquée que sur les épisodes, notamment sur portable, où t'avais vraiment l'impression que c'était très très. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Quand tu avances ou quand tu recules dans le monde d'Animal Crossing et que tu n'es pas à l'intérieur d'un bâtiment, tu as l'impression effectivement de parcourir un globe. C'est un effet qui n'est pas
un mini globe. Un mini globe. Une balle de tennis avant, et là on a l'impression d'être plutôt sur une grosse pastèque.
Exactement. Bah pourquoi? Parce qu'on a, même si en soi la taille de l'île, parce que cette fois-ci c'est la différence avec ce New Horizons, on n'est pas dans un village, on est sur une île. Qu'il va falloir peupler, aménager au gré des jours. Là, on est dans un espace qu'on veut nous montrer comme étant plus grand. Cette rotondité, tu la vois un petit peu plus quand tu es sur une des petites îles que tu visites en dépensant tes Nook Miles, par exemple.
C'est vrai.
Donc, je dirais que c'est un effet qui, à mon avis, est à la fois causé par le fait qu'on est sur un écran 16:9, qu'on se balade aussi beaucoup de gauche à droite, et que du coup, cette rotondité, on la déclenche pas visuellement tout le temps, on n'y prête pas tout le temps attention, mais aussi parce que c'est un espace volontairement plus grand et un espace qui s'ouvre au fil des jours de jeu. Donc, au départ, quand on commence sa partie et qu'on a accès qu'à une petite bande d'espace sur l'île, nécessairement, c'est moins frappant. Il y a plusieurs facteurs qui y contribuent, à mon avis.
Alors, il y a quand même quelque chose qui change, c'est qu'on est beaucoup plus libre, encore plus libre qu'avant, je trouve.
Oui.
Mais en même temps, on est aussi beaucoup plus guidé au début du jeu, même s'il y a toujours une petite structure de didacticiel dans Animal Crossing. Là, on a quand même une espèce de séquençage qui se met en route. Comment vous l'avez ressenti? Est-ce que c'était pesant finalement dans ce type de jeu, ou est-ce que vous trouvez que ça s'intègre bien au reste de l'aventure?
Alors, j'ai trouvé ça un petit peu frustrant en tant que joueuse aguerrie, parce que, alors, frustrant et pas frustrant, je m'explique tout de suite. Dans les précédents opus, vous aviez une petite phase de didacticiel qui était très 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 contraignante où il fallait faire des tâches pour Nook, donc le petit capitaliste de l'île à qui vous devez tout le temps de l'argent. Et c'était très pénible, surtout quand vous avez déjà fait le jeu, soit différents opus, soit vous avez recréé différentes îles, ça peut arriver. Et vous aviez toujours cette phase de tutoriel qui était assez laborieuse. Là, vous ne l'avez plus du tout. Donc, déjà, ça, on en est débarrassé, donc c'est plutôt agréable. Mais ça reste un petit peu frustrant parce que justement, vous avez ce sentiment de liberté, vous avez l'impression de pouvoir absolument tout faire sur votre île dès le départ. Alors qu'en fait, pas tant que ça, puisqu'il y a des bâtiments qui n'existent pas, vous avez des options qui n'existent pas, en fait, vous allez apprendre au fur et à mesure. Donc il y a un petit peu de frustration quand on est un joueur aguerri, mais je trouve que ça, c'est aussi une bonne introduction au jeu parce que ça oblige à se mettre dans un rythme très chill. Ça t'oblige à prendre ton temps. Ça t'oblige à te mettre dans le rythme très lent et, comment dire, très suivi d'Animal Crossing.
À explorer chacune des options. Tu serais dans Animal Crossing sur DS ou sur 3DS et tu n'aurais culturellement ou par tes amis pas entendu parler du musée de Thibou où tu peux déposer tes fossiles, tes tout le reste. À moins d'avoir un petit peu de chance et d'en entendre parler, en soi, tu peux complètement passer à côté. Mais là, comme faire venir Thibaut, puis lui construire son musée, c'est une partie intégrante de la première semaine que tu passes sur ton île, c'est beaucoup plus difficile de passer à côté. D'autant que obtenir ça, faire avancer ça, fait en définitive avancer, je vais pas dire le scénario, et ça c'est un point où il faut être très précis par rapport à ce jeu-là, il n'y a pas véritablement d'histoire, mais en tout cas sur ce premier déploiement de l'île, ça fait avancer un petit peu le reste, et du coup ça fait avancer les différents outils que tu as à ta disposition. Donc ce qui est intéressant à mon avis dans la progression qui a été mise en place ici avec ce nouvel Animal Crossing, c'est que oui, on te prend la main pour des choses très basiques et pour te dire bah voilà, au lieu que t'aies à apprendre où est le magasin, mets-le toi-même le magasin, comme ça tu sais où il est, ce qui est assez élégant d'une certaine manière, et d'autre part des conventions d'Animal Crossing qui sont entre guillemets connues mais qui sont un petit peu cryptiques, elles continuent de ne pas être expliquées. Certaines d'entre elles, à travers le système de succès, d'achievements, de trophées que sont les Nook Miles, ils sont quand même un petit peu devinables. Mais d'autres sont laissés complètement secrets à découvrir au moment où savoir qu'il y a un petit cadeau attaché à un ballon qui va survoler ton île, eh ben, il va falloir le découvrir un petit peu au hasard. Personne va te dire, mon Dieu, quelqu'un va t'envoyer un cadeau et tu vas pouvoir le tirer dessus et essayer de le récupérer, mais attention, faut pas qu'il tombe dans l'eau.
Oh, je suis sûr que les habitants, de temps en temps, ils vont te laisser des petits indices sur ce genre de choses. C'est bien le genre du jeu, quand même, de te signifier quelques actions à faire.
Les premiers jours, tu as Mello qui t'explique pas mal de petites astuces comme ça. Hein.
Ouais.
Avant que la boutique Nook soit créée, tu as donc un petit personnage qui est dans la tente et un autre, donc, puisque tu as le duo Méli-Mello.
Méli-Mello, oui.
Et donc, tu as Mello qui traîne un peu sur l'île et qui t'apprend plein de petites astuces sur l'île. Donc, je suis pas allée beaucoup aller le voir parce que je suis partie du principe que j'avais beaucoup d'orgueil et que je savais beaucoup de choses. Mais je suis sûre qu'à un moment ou un autre, il doit te le dire.
C'est puis même les habitants eux-mêmes hein, qui essaient de t'expliquer deux trois trucs sur les fossiles, sur machin, etc. Il y a toujours des petites phases de didacticiel qui sont glissées au niveau des personnages en général. Mais surtout, il y a une chose qui change et tu l'as évoqué brièvement, Yann, et je voulais qu'on y revienne.
Oui.
C'est le fait que cette fois-ci, on modèle complètement l'univers dans lequel on évolue. Là où d'habitude on arrive dans un village déjà constitué avec le musée déjà construit à tel emplacement, la boutique à tel emplacement, etc. Là finalement, en tant que délégué insulaire, on décide un petit peu de tout, et ça, est-ce que c'est une avancée ou est-ce qu'on préfère l'aspect davantage justement j'arrive dans ma ville? Comment vous l'avez préféré en tout cas?
C'est une avancée en tant que telle parce que c'est l'aboutissement de la formule New Leaf, parce que dans New Leaf on était le maire, là on est le délégué insulaire, autrement dit on est quasiment le plénipotentiaire et on décide d'où va quoi dès le départ. La seule chose qu'on ne décide pas, c'est d'une certaine manière le layout de son île, parce qu'on doit choisir parmi quatre, on n'a pas la possibilité de terraformer dès le départ. Et de deux, on ne décide pas où se trouve l'aéroport, où se trouve la place centrale et où se trouve un petit ponton. Que pour l'instant, d'ailleurs, je ne sais pas à quoi il sert. Mais où se trouve le petit ponton. Voilà, ça, c'est les trois trucs. Tu ne peux rien y faire. Et je pense pas qu'on puisse aller plus loin parce qu'il apprend ensuite question de juste faire une île où tu puisses accéder à ce genre de choses, etc. Enfin bref, ça c'est une autre considération. Tu peux décider énormément de choses. Je trouve ça positif. Le seul point négatif par rapport à ça, on pourrait y revenir plus tard. D'ailleurs, il y a une question d'auditeur à ce sujet, mais c'est la question du multijoueur local. Enfin, du multijoueur local, non, mais de jouer sur la même console un par un en solo, puisque une seule personne par console peut être le délégué insulaire. Autrement dit, une seule personne par console décide où vont quoi sur l'île et décide, et fait progresser un certain nombre de quêtes importantes pour ouvrir de plus en plus d'outils sur l'île, de fonctionnalités pour le Nook Phone qui sert d'interface pour interagir avec l'île, hein, à plein d'aspects et avec les différentes capacités du personnage, du villageois. Et ça, c'est un problème parce que quelqu'un qui va jouer pour à peu près la première fois concrètement, quelqu'un qui va jouer sur ma console, va vraiment avoir une expérience dégradée en termes d'Animal Crossing. Le fait qu'on donne autant de pouvoir au premier joueur fait que pour l'autre, il est un peu condamné à visiter le village quasiment comme si il était quelqu'un qui se connectait depuis une autre console et qui visitait mon village. C'est presque ça en définitive, et ça casse un petit peu cette convivialité-là qui était un des principes de départ d'Animal Crossing sur GameCube. Papa, maman, mon frère et moi pouvons avoir notre petit village et on est tous chacun citoyen, on a tous chacun notre dette avec tous chacun notre maison. Point.
Là, on a... Ah bah d'ailleurs, Lucille et moi, on habite dans le même village. Sur mon let's play, on habite ensemble dans le même petit village.
Oh.
Mais en fait, du coup, les autres habitants en dehors du délégué, ils vivent l'aventure comme on le vivait à l'ancienne presque, finalement. Sauf qu'ils voient l'île évoluer, mais qu'ils n'ont pas ce poids.
Oui, voilà, ils n'ont pas ce poids, mais en même temps, ils ne peuvent pas profiter du jeu en entier. Et il n'y a pas moyen de créer une seconde île sur la même console avec un profil différent sur la Switch. Ce qui signifie que si... vous et votre cher et tendre souhaitez jouer chacun à Animal Crossing New Horizons, on va dire à 100%, ça veut dire une Switch chacun.
Deux Switch.
Voilà, c'est ça. Et bien joué commercialement, c'est génial. Ne pas avoir ce choix-là pour le joueur, c'est un peu nul.
C'est un peu le coup de la seule sauvegarde sur les cartouches Pokémon aussi.
Ouais, c'est ça.
Lucille, tu l'as vécu comment, toi, ce côté liberté ?
Je trouve ça très plaisant parce que j'ai l'impression d'avoir un aboutissement. Quand on a vécu plusieurs versions de Animal Crossing, à chaque fois on a des possibilités qui sont augmentées. Et là, je trouve que bah, là les possibilités sont hyper larges. On peut vraiment façonner son village, enfin son village, son île même carrément, vraiment de la façon dont on le souhaite. Et je trouve que c'est une très très bonne surprise.
Je me suis très très vite lassé de l'épisode New Leaf, alors que j'avais joué à l'épisode DS pendant très 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 longtemps. New Leaf était bon, mais je rejoins en ça ce que tu disais, Lucille, c'est que tu parlais de capacité augmentée, et c'est vrai que c'était le même jeu, mais en mieux, la façon dont je l'ai ressenti. Alors que là, quand j'y joue, je m'ébahis d'un rien, parce que j'ai l'impression que le jeu s'est véritablement transformé et qu'on joue quand même à autre chose, rien qu'avec cette possibilité de crafter, de placer les bâtiments, le musée qui arrive, et le musée mais qui est d'une beauté.
Les fossiles
oui,
avec l'arbre
beau.
D'évolution au sol, enfin qui est juste une idée mais tellement brillante, la pièce des insectes aussi qui est juste magnifique, enfin tout est beau, c'est extrêmement bien conçu. Tu vois vraiment que le jeu il prend en fait son ampleur et t'as l'impression que c'est sa forme, j'allais dire sa forme finale, mais c'est
la version shiny.
Ouais, c'est ça. Mais t'as l'impression qu'ils se dirigeaient vers ça et que là ils ont enfin réussi à le faire et à répondre toute l'attente qui va être cristallisée autour du concept qui pouvait être rébarbatif auparavant. Alors que là, je trouve que avec cette formule, ils peuvent véritablement élargir le public qui s'intéresse à la licence Animal Crossing. Enfin, moi, telle manière que je le ressens. Il y a aussi une chose qu'on a évoquée tout à l'heure et sur laquelle on va revenir, ce sont les Nook Miles, du coup. Ce sont une espèce de petits succès, des petites récompenses qu'on obtient un peu comme les succès, les trophées sur PlayStation. C'est accompli une tâche et du coup on va te récompenser. Tu as un nouveau fruit, tu captures 10 insectes, 10 poissons, etc. Une petite tâche, et voilà. Et comment vous l'avez vécu, cette intégration, en fait ? C'est quelque chose de nouveau, quand même, dans Animal Crossing.
Alors, j'ai trouvé ça très intelligent, parce que ça permet... Alors, donc, les Nook Miles fonctionnent un petit peu comme une deuxième monnaie du jeu, finalement. et qui est pas difficile à avoir, donc c'est pas très frustrant, c'est bien, c'est pratique. Et j'ai trouvé ça bien parce que ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça ouvre de nouvelles perspectives d'achat, entre guillemets, puisque ça permet de débloquer des choses qui ne sont pas débloquables avec les clochettes, donc la monnaie du jeu. Et la deuxième chose, c'est que ça augmente la boucle quotidienne, puisque maintenant, on va plus seulement faire nos petites actions quotidiennes quand on va se connecter pour jouer, on va pouvoir aussi se dire, tiens, je vais faire des actions pour pouvoir débloquer des Nook Miles qui vont me permettre d'acheter des nouvelles choses, et notamment d'acheter des choses très importantes, comme par exemple des tickets pour pouvoir aller sur des îles mystères avec mon petit hydravion, ou encore des nouveaux plans. Pour le craft, parce que le craft fait partie intégrante de ce nouveau Animal Crossing, et du coup, les Nook Miles permettent de récupérer des plans notamment. Donc, c'est vraiment très bien, je trouve, c'est bien intégré. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu à peu près lors de la mise à jour de Animal Crossing New Leaf, puisqu'il y avait une mise à jour quelques années après la sortie du jeu pour essayer de faire rebondir un petit peu les joueurs. Et c'était des tickets, je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était des espèces de tickets quotidiens qu'on pouvait obtenir justement en remplissant des petites tâches. Et je pense que ça a bien marché auprès des joueurs et ils se sont dit on va en faire quelque chose de prépondérant dans le nouveau jeu, quoi.
Donc là on a les Nook Miles de base, hein, les succès classiques comme je le disais, et des Nook Miles plus qu'on débloque un peu plus tard dans le jeu et qui changent tous les jours avec des petites missions répétitives pour avoir justement toujours cet apport de Nook Miles. Et toi Yann, c'est quelque chose auquel tu fais attention ?
Alors, j'avais vu venir le truc un petit peu dans le direct, mais je m'étais pas attendu à voir à quel point c'est addictif, déjà, pour commencer. Quand j'ai fait mes premières heures de jeu, je me suis retrouvé comme un gland à faire un maximum d'actions, à voir et à tenter des trucs que je connaissais dans la licence Animal Crossing et de voir si ça aussi, ça allait me faire gagner des Nook Miles ou pas. Je peux te dire, par exemple, que l'action de désherber l'île, j'aurais été beaucoup plus lent et beaucoup moins diligent à désherber mon île s'il n'y avait pas eu de Nook Miles derrière. Et c'est bête, mais voilà. Alors, RIP, évidemment, la touche Y de mon Joy-Con après ça, hein, plusieurs centaines de fois, pour enlever toutes les mauvaises herbes sur la surface de mon bout de caillou. Ça prend du temps, mais non, en vrai, comme le dit Lucille, effectivement, ça étend la boucle de jeu quotidienne parce qu'on a ces 5 missions qui valent 2 fois plus, qui sont là par défaut. Et puis, le truc positif, c'est que ça ne met pas tout derrière les clochettes. Une monnaie qui est, suivant quoi, un peu difficile à obtenir, notamment quand on est toujours dans cette perspective de rembourser son prêt pour payer sa tente, sa maison, etc. Donc, ou son extension de maison. Donc, c'est positif. Ça laisse plusieurs portes de sortie à un joueur pour faire quelque chose d'intéressant, pour partir par exemple sur une petite île, récupérer des ressources, sans qu'il ait justement à dépenser des clochettes. Là où, par exemple, dans New Leaf, quand on partait sur la petite île pour aller farmer des gros insectes, eh ben, fallait dépenser des clochettes pour gagner des clochettes. Là, on dépense des Nook Miles pour gagner des clochettes. Ou on dépense des Nook Miles pour avoir certains objets, pour... Voilà. Ce serait un système qui serait parfaitement malhonnête s'il y avait de la microtransaction derrière, mais il n'y en a pas. Donc, tant mieux.
Très bien. Au niveau de l'interaction avec les villageois, le côté vie sociale, comment ça se passe pour vous ? Est-ce que vous trouvez ça plus intéressant, moins intéressant qu'avant ?
Alors, je l'ai mis dans le conducteur et je vais bien avoir la réaction de tout le monde, mais... En particulier les tout premiers jours, je les ai trouvés plus robotiques que d'habitude, les villageois. Vraiment en mode blip bloup, je suis un villageois Animal Crossing et je t'aime. Là où les villageois Animal Crossing, pour moi, c'était aussi... Ils pouvaient aussi s'énerver pour un rien, ils posent des questions un petit peu absurdes, ils proposent certaines activités, d'aller courir après quelqu'un et d'échanger un truc. Là, on m'a rien envoyé faire. Aujourd'hui, j'ai eu une question un petit peu rigolote qui m'a été posée. Quel genre de film tu aimes, mais en vrai, j'ai trouvé que, en tout cas sur les premiers jours, bah, mes villageois, ils sont plus en mode bienvenue sur l'île qu'autre chose, et je trouve ça un peu dommage.
Bah, je partage assez ton impression. Après, j'interagis peu avec, en fait. Je trouve que l'île est tellement intéressante au final que l'interaction avec les villageois devient presque secondaire. Alors, après, est-ce que c'est parce que j'ai des villageois que j'aime pas spécialement dans mon île. Je sais pas trop, mais je cours pas après eux. Enfin, je sais pas. Toi, Lucille, comment ça se passe?
Bah, effectivement, je les ai trouvés un petit peu passifs. Après, là, je viens de débloquer mon troisième villageois dans mon histoire. Et j'ai une interaction nouvelle qui vient de se créer, puisque je peux à présent leur offrir des cadeaux.
Ah.
Donc, je pense que plus on va avoir de villageois et plus les interactions vont varier, puisque d'accord, dans les anciens opus, on avait par exemple la possibilité de leur rendre des services. Oui. Donc peut-être que ça viendra avec le temps. Voilà.
C'était même prépondérant dans le premier épisode, ces fameux services.
Complètement.
C'est des tâches FedEx, ça c'était nous le facteur du village, on peut le dire.
Voilà, donc effectivement, un peu de mais au début, on va dire. Mais voilà, donc je reste plutôt optimiste. Je vais voir ce que va apporter la suite en ayant plus de villageois sur mon île.
Mais la vie sociale, ce ne sont pas que les villageois. C'est bien sûr aussi le multijoueur. Qu'est-ce que vous pensez du coup des modes multijoueurs ?
J'ai pas pu tester le multilocal. Je sais pas si, avec le confinement, aucun d'entre nous n'a pu le faire.
Alors,
pas du tout.
Donc ça, c'est le petit problème. J'ai joué en multi online et plutôt stable, plutôt efficace. Je trouve intelligent la possibilité non seulement de pouvoir inviter ses amis qu'on a dans sa propre liste, mais aussi de pouvoir inviter des gens qu'on ne connaît pas, enfin qu'on n'a pas directement dans sa liste d'amis avec un code dodo. Donc c'est un code à 4 caractères, chiffres ou lettres. Et là aussi c'est une bonne idée je trouve, parce que on n'a pas à se traballer un énorme code. C'est assez similaire à ce qu'on a par exemple sur la Jackbox Party Pack quand on veut se connecter et jouer à un jeu ensemble avec son petit smartphone. Donc ça passe bien, c'est bien fichu. L'interaction n'est pas folle, il y a pas des milliards de mini-jeux qu'on peut faire. En vrai, on peut faire un petit peu de compétition et voir combien de poissons on peut pêcher, ou essayer de pêcher le même poisson, ou justement profiter un petit peu des boutiques de chacun et des différentes choses qu'on y trouve. Ça, effectivement, c'est faisable, quitte d'ailleurs à se spoiler quand on va vers le village de quelqu'un qui a une version presse depuis longtemps, n'est-ce pas, Corentin Lamy ? Et puis sinon, de faire rager les autres qui n'ont pas autant farmé le jeu que soi et qui se disent oh là là, mais mon dieu, je n'ai pas encore débloqué ça, pourquoi as-tu plein de villageois chez toi? C'est fun, c'est bien fichu. Je pense que ça manque quand même un petit peu de mini-jeux ou de boucles de gameplay spécifiquement pensées pour ça. Peut-être que ça viendra dans une mise à jour, et je pense que c'est un truc qu'on va beaucoup dire à propos de ce jeu là mais ça c'est un truc que je trouve qui manque potentiellement un petit peu. Au-delà, pour la base qui consiste à pouvoir visiter le village d'un autre, être là, potentiellement pouvoir le modifier si on devient meilleur ami, c'est un système interne au jeu, il faut ajouter quelqu'un en meilleur ami pour qu'il puisse le faire, creuser et déplacer des choses dans son village, c'est pas mal, pourquoi pas. Et puis sinon, pouvoir s'envoyer des petits courriers, y compris quand on n'est pas connecté, ou s'envoyer des messages avec le chat, y compris quand on n'est pas directement dans le même village mais qu'on est juste connecté à internet, ça fait plaisir aussi. J'ai envoyé un petit mot à un ami qui était passé par là, tu as visité mon village, etc. Dès que l'un visite le village de l'autre, il devient possible de lui envoyer un courrier. Ça coûte pas cher, ça coûte 200 clochettes, et c'est fun et c'est cool, et c'est plus intéressant d'envoyer un courrier à une vraie personne qu'envoyer un courrier à un villageois, en tout cas en l'état.
Ah oui. Bien sûr.
Voilà.
Et toi, Lucille, comment ça se passe ?
Bah écoute, j'ai fait beaucoup de multi, puisque avec des copains, on a carrément ouvert un Discord sur lequel on annonce les objets qui sont en vente dans nos magasins, ce genre de choses. Donc, ce qui fait que, voilà, on a beaucoup pratiqué le multi. Alors, il y a des défauts, notamment les temps de chargement qui sont très longs. Quand vous avez une personne qui arrive sur votre île, c'est assez long. Quand vous êtes sur l'île de quelqu'un et qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, ça paralyse le jeu en fait.
Ça peut l'être, mais j'ai vu des vidéos. Est-ce que t'as vu les mêmes vidéos que moi sur internet ? Parce que en gros, quand quelqu'un arrive sur ton village, tu vois leur avion te survoler.
Oui.
Ils voient leur avion.
Voilà, ils voient leur avion.
Et des gens ont par exemple ajouté des messages.
Ah non, ça j'ai pas vu par contre.
Ils ont utilisé la fonctionnalité de dessin pour créer des motifs et ils ont posé ces messages au sol, ce qui fait que tu vois l'autre villageois à côté de son message qui salue avec un truc horrible marqué sur l'île.
Alors ça j'ai pas vu, mais j'avoue ça peut être drôle.
Il y a un potentiel comique qui est assez puissant.
Donc ça j'ai pas vu, mais bon, donc voilà, il y a ce temps de chargement qui peut être assez paralysant et qui, voilà, si vous recevez 8 copains, il faut s'organiser, il faut que vous ayez bien 20 minutes devant vous avant de pouvoir continuer à jouer correctement.
Ouais.
Voilà, donc sinon, voilà, le mode multi, il est sympa, mais comme tu l'as dit, il n'y a pas grand-chose à faire à part échanger des ressources. Mmh. Et puis, se balader sur l'île des copains. Après, même chose, je reste optimiste parce que il va y avoir donc les événements ponctuels, Pâques, Noël, Nouvel An, etc. Tous les petits événements et souvent il y a des choses à faire. Et dans les versions précédentes, quand vous alliez visiter l'île de vos copains, vous pouviez participer. Donc je m'attends à ce qu'on puisse faire pareil. Je ne sais pas si ça va être le cas, mais j'espère que ça va être le cas.
Ça devrait l'être. Il faut préciser que ces événements-là, on ne sait pas si c'est le cas de tous, mais en tout cas, on sait que c'est le cas de certains, dont Bunny Day, qui est l'équivalent donc, de Pâques. Donc, le jour du lapin. Joli hommage au Festival d'Animation d'Annecy. Le jour du lapin sera distribué par une mise à jour distribuée online, gratuite, mais tout de même. Ce qui signifie qu'il y a un paquet de trucs qui vont être distribués de cette manière-là. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est uniquement pour ajouter du contenu différent chaque année, ce qui est potentiellement intéressant, d'avoir la même chose qui se répétera d'année en année, ça peut être assez cool. L'autre point que je vois aussi, c'est que ça permet potentiellement de faire des petits ajustements assez sympas. Je ne sais pas si vous avez installé Fortnite sur votre Switch, mais Fortnite sur Switch change son icône à chaque grand numéro de version. La petite icône carrée qu'on a sur l'écran de la Switch. Et je me dis que Animal Crossing pourrait faire la même pour Noël ou en changement de saison. Je me demande et je les suspecte de prévoir un coup pareil parce que faire une mise à jour par grand événement, par exemple Noël si ça peut être Noël, ça voudrait dire qu'ils pourraient sortir une nouvelle version de la vignette. Donc à voir.
Moi, j'espère que c'est le genre de choses qui vont... Parce que vraiment, Animal Crossing, tout repose sur le temps qui passe.
Oui.
Donc ils auraient tout intérêt à le faire.
Et de cette manière-là, à montrer que quelque chose de nouveau s'est passé dans le jeu, y compris depuis l'interface de la console, et à dire « Viens, vas-y, retourne, il y a des choses à découvrir. »
Exactement.
Alors Yann, je crois que tu voulais nous parler d'un outil de motif, du coup.
L'outil
que
de...
tu as mis en conducteur.
Oui, alors, c'est un outil de motif assez patterns.com. Il y a des équivalents qui existent également. Et je le dis parce que effectivement, il est possible de faire ses propres motifs dans le jeu, pixel par pixel. On n'est pas tous des artistes, on n'est pas tous des fadas du pixel art. Et cet outil vous permet très simplement d'uploader une image carrée, ou même pas carrée d'ailleurs dans certains cas, et d'en faire un visuel que vous pouvez ensuite vous faire en t-shirt, le poser sur un petit cadre, la poser au sol, etc. etc. Donc pour ma part, d'ailleurs il y a un petit système de navigation sur ce site, j'ai récupéré par exemple un joli design Paper Mario que j'ai donc scanné. Ce qui est un QR code que tu scannes avec l'application Nintendo Switch Online sur ton smartphone et qui ensuite est disponible dans le jeu. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est possible d'être fait pour pouvoir importer un petit peu de pixel art bien sympa. D'ailleurs, c'est un petit peu décevant d'une certaine manière parce que ces visuels-là, il y a du smoothing, donc un aspect un peu arrondi à chacun des visuels. Ça rend bien dans certains cas, mais quand c'était du pixel art au départ, ça a un côté un petit peu bouilli, moche, flou, un peu dégoûtant. Donc c'est un petit peu dommage. Je ne sais pas si vous avez déjà joué, vous, avec l'outil qui permet de créer les motifs. Mais
pas encore.
Ouais, voilà.
Pas encore non plus.
C'est un petit peu dommage de ce côté-là qu'on puisse pas préciser. Ça c'est du pixel art, tandis que ça, tu peux l'arrondir, pas de souci. Ça j'ai trouvé un petit peu dommage. Il y a un dernier point que je voulais évoquer de manière individuelle vraiment parce que j'y pense maintenant. On a parlé plein de trucs. Moi je veux parler du son. En termes sonores, ce jeu-là c'est un petit délice. Le bruit du vent. Le bruit de l'eau, les chutes d'eau, tout est merveilleux. La bande son est très relaxante. On l'avait déjà découvert encore une fois dans le Nintendo Direct il y a quelques semaines, mais vraiment, je sais pas pour vous, mais cette nouvelle bande son, d'ailleurs qui n'a plus tout à fait même plus du tout les mêmes mélodies que l'épisode 3DS ou l'épisode DS, ils sont vraiment partis assez loin. Je trouve ça charmant, ça détend, enfin, il remplit parfaitement son rôle.
Très bien. Alors, avant de passer aux questions, coup, brièvement, je voulais savoir quelle était l'action, l'activité que vous préférez dans ce nouvel Animal Crossing et pourquoi vous le recommanderiez, du coup, aux autres joueurs. Je vais commencer avec Lucille.
Alors, moi, ce que je préfère dans Animal Crossing, c'est la pêche. Je peux passer des heures à pêcher. C'est vraiment j'ai envie de dire, c'est mon péché mignon.
Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu pêches? Est-ce que tu appuies juste une fois sur le bouton A ou est-ce que tu le martèles?
Alors, ni l'un ni l'autre, je le maintiens.
Ah!
Voilà. Alors, chose que, alors, j'ai appris il y a genre 3 jours.
Pareil.
Qu'il suffisait d'appuyer une seule fois sur le bouton A pour pouvoir ferrer le poisson. Moi, j'ai toujours maintenu le bouton depuis la version GameCube.
Mais j'ai toujours martelé le bouton comme un cinglé parce que t'as la ligne qui fait.
Bah, c'est ça. Du coup, je me suis dit, il faut le tenir, le petit poisson.
Moi, je me suis dit, il faut se battre contre, je martèle.
Voilà, et je recommande cette activité parce qu'en plus ça permet d'avoir facilement des items qui se vendent cher.
Et toi Yann, voilà. Du coup
mon activité préférée dans Animal Crossing, je pense que c'est la chasse aux insectes, parce que justement il y a un petit peu plus de il y a différentes manières d'approcher les insectes. Évidemment, on a tous vu les gens sur Twitter se battre avec les tarentules, c'est très drôle. Les tarentules qui t'attaquent, mon Dieu.
Les fameuses tarentules.
Il faut les éviter, il faut essayer de les choper, c'est compliqué. Non, en vérité, chaque insecte a des conditions un petit peu d'apparition légèrement différentes. Ils se baladent, il faut les courser, il faut les rattraper, tout ça, tout ça. Donc non, franchement, je trouve que c'est l'activité la plus intéressante, avec un point quand même, parce que là, on parle de chasse, et il y a quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué malgré tout. C'est les items principaux qui s'usent.
Oui, c'est
oui,
vrai.
Exact.
Et ça, alors certes, on peut crafter à partir de matériaux qu'on trouve ici et là. Hein, c'est une des boucles de gameplay principales du jeu. Des matériaux pour soit en faire une version plus renforcée, soit simplement pour se refaire un, se refaire une pelle, se refaire un filet. Mais j'ai vu pas mal d'agacement sur internet, et si je peux me permettre une parenthèse dans ta parenthèse, mon cher loup, je me demande si vous ça vous a agacé. Moi au final je me dis que c'est pas si grave, j'ai été bien biberonné à l'école Breath of the Wild Zelda, et je me suis fait une raison, et ça va assez vite de s'en refaire un, et en plus on peut en avoir plusieurs en stock parce que l'inventaire assez vite peut être agrandi à une taille assez, assez confortable, mais j'ai vu beaucoup d'agacement. Est-ce que c'est votre cas?
Bah, moi, écoute, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas aimé Breath of the Wild. C'était vraiment les armes qui cassaient parce que, pour moi, ça ne marchait pas dans ce. Pour moi, je parle vraiment pour mon cas personnel. Ça ne m'intéressait pas, en tout cas, dans ce type de jeu. Alors que dans Animal Crossing, pour moi, ça me paraît juste presque évident, en fait. Ça fait partie du jeu, la récolte, le côté, voilà, je fais mes petits outils et cette idée d'île déserte. Pour moi, ça s'intègre parfaitement et ça me dérange pas du tout. Surtout que t'as des objets qui cassent plus ou moins en fait selon leur niveau de résistance. Donc peut-être que t'as aussi à la fin des super outils qui ne casseront pas. Si les outils en or par exemple sont toujours de la partie, j'ai pas encore testé, mais ça peut être une possibilité. Et toi, Lucille ?
Ça m'a un peu frustré parce que généralement ton outil il casse au moment où t'es en plein milieu de faire de la chasse, de faire de la pêche ou des trucs comme ça. Sinon c'est pas drôle, bien évidemment. Donc il y a un petit côté frustration. Après, moi j'adore le craft de manière générale dans les jeux, donc ce qui fait que je me suis très vite familiarisée avec le craft de Animal Crossing New Horizons, et maintenant ça passe. Voilà.
Très bien.
Mais j'ai quand même hâte d'avoir les outils infinis, s'ils existent.
Je à confirmer, mais j'ai pas l'impression.
Bah, j'ai pas l'impression non plus, mais j'y crois.
J'ai même pété un lance-pierre aujourd'hui.
Ah donc, oui, quand même.
C'est te dire, même le lance-pierre, au bout d'un moment, il pète.
Je me dis, est-ce que la perche peut péter?
Non,
alors normalement,
ça,
la perche et l'échelle ne cassent pas.
C'est ça, voilà. Les deux
je
objets
pas qu'il y avait une échelle pour l'instant.
Les deux objets d'exploration ne cassent pas.
Pardon pour le spoil.
Très bien. Ah non, il n'y a pas de souci.
C'était dans le direct, c'est fair
imagine,
play.
Oui.
Imagine, j'ai pas regardé justement les directs pour éviter d'être spoilé.
D'accord.
Imagine ta perche, elle pète quand t'es de l'autre côté et que tu peux pas revenir. T'es obligé d'éteindre t'es foutu.
C'est à ça que sert le numéro de téléphone au centre d'aide.
Je l'avais oublié. Oui, mais il est payant en plus, donc c'est embêtant.
Ah.
Bien, alors je vous propose de passer aux questions parce qu'on a quand même une sacrée tripotée. Scott nous dit « J'espère que le confinement se passe bien. Pour vous, perso, ce Animal Crossing est le premier pour moi. Et du coup, je me pose la question de la fin. Comment ça se passe? Est-ce que du contenu additionnel est prévu? On a déjà répondu, peut-être une petite réponse brève. Du coup, il y aura du nouveau contenu, il y a des événements, c'est ça?
Oui, des événements, des nouveaux villageois de passage, des gens qui viennent te vendre quelque chose. Il y en aura de plus en plus avec les différentes mises à jour. C'est également quelque chose qui a été annoncé par Nintendo. Pour l'instant, on ne voit que des villageois de passage dont on avait l'habitude dans Animal Crossing. Je vais pas aller plus loin pour éviter de spoiler. Moi, j'en ai déjà repéré deux que j'avais l'habitude de voir, bah, notamment dans New Leaf. Donc, pas de surprise de ce côté-là, mais il va en venir par la suite. Et puis, sur la question de la fin, bon, si tu as regardé Nintendo Direct, Scott, tu vois à peu près les outils que tu es censé avoir en définitive. Mais en attendant, c'est pas un jeu qui a une fin, c'est un jeu qui a un début et qui t'introduit à ses mécaniques. Mais en vrai, ensuite, c'est une question de personnaliser, de remplir un petit peu une liste de tâches énormes que sont bah, les différents bestiaires vivants.
Bah, déjà
et,
ça,
et
ça prend quasiment une année, le bestiaire. Enfin, voilà. Ça te prend une année, puisqu'il te faut
au
les
minimum,
quatre saisons.
Ouais.
Voilà, donc au minimum, effectivement, parce qu'il faut déjà que tu réussis à avoir tous les bons animaux à une période donnée, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, ouais, c'est long à finir comme jeu.
Absolument. Donc, il y a une durée de vie qui va dépendre surtout de ton intérêt pour la chose. Il faut que tu colles à comment ça fonctionne. Voilà.
Adrien nous pose deux questions en cette période de confinement. Est-il possible, y a-t-il un intérêt à y jouer en full solo? Votre point de vue?
Ah oui, complètement. Hein. C'est un jeu où vous pouvez y jouer tout seul. On va dire que le plus gros inconvénient, c'est que vous n'aurez pas beaucoup d'autres fruits. Voilà, vous n'aurez pas beaucoup le choix sur les meubles à acheter, les choses comme ça, puisque ça permet d'étoffer le catalogue quand vous allez dans d'autres villes. Mais sinon, vous pouvez complètement y jouer tout seul. Vraiment, il n'y a aucun problème là-dessus.
C'est l'intérêt principal d'Animal Crossing, paradoxalement. Et derrière, effectivement, tout le reste, comme Lucille l'explique, c'est la cerise sur le gâteau.
Combien de temps dure la boucle de gameplay quotidienne?
Ça varie entre les premiers jours et quand la routine s'installera. Pour l'instant, la routine ne s'est pas encore installée sur mon île. Je ne pense pas sur la vôtre non plus.
Non. Mais...
Non. Ouais, je trouve même que les premiers jours, enfin moi, d'habitude, Animal Crossing, c'était des sessions de 15-20 minutes, je me souviens, quand j'étais à la fac. Et là, je trouve qu'il y a tellement de choses à faire.
Il y a 3-4 heures le premier jour, hein, techniquement.
Donc, c'est costaud.
Disons, bah, c'est... Vas-y, vas-y.
Pardon, j'allais juste te dire qu'avec le fait de farmer des ressources,
oui,
on a
déjà
maintenant aussi, voilà, entre les ressources et éventuellement les Miles Plus, qui arrivent au deuxième ou troisième jour, je ne sais plus exactement, je pense qu'on peut aller jusqu'à 30-45 minutes, voilà. Au moins.
Et les tout premiers jours où on commence le jeu, c'est une à deux heures par jour au moins, 3-4 si vous êtes vraiment un fada qui va aller boucler toutes les choses dans la journée possible, vraiment bouclable dès le départ. Parce qu'il y a, en fait, en vérité, étant donné qu'on ouvre l'île pour la première fois, il y a beaucoup à faire la première journée. On profite. Voilà.
Alors, Damien nous dit, ne trouvez-vous pas que tous ces fraudeurs qui filoutent Animal Crossing méritent un bannissement? Pensez-vous qu'on devrait envoyer Resetti dans la vraie vie pour engueuler ceux qui ne respectent pas le confinement également?
Alors, déjà, deuxième question, absolument. Oui, tout à fait. C'est une très bonne mesure et je pense que Resetti peut devenir Premier ministre quand il le souhaite. Pour la première question, un bannissement peut-être pas, mais justement une forme de punition, peut-être bah, pour ceux qui font ce qu'on appelle du voyage dans le temps, c'est-à-dire qu'ils changent l'heure de leur console ou de leur jeu pour accéder à plus de ressources, pour faire avancer
c'est triste,
l'évolution
c'est
quotidienne.
Bien.
C'est triste et je
c'est
pense
dommage.
Que ça aurait été intéressant si c'est détectable, et si c'est détectable de manière 100% fiable et qu'il n'y ait pas de faux positifs, d'ajouter effectivement un petit degré de punition à ceux qui font ça. Ce serait intéressant, voire même
un bon quart d'heure de Resetti qui t'embête à te faire la morale et tout.
Par exemple.
Mais c'est vrai que le plaisir d'Animal Crossing vient aussi du fait de cette attente, cette évolution, etc. Et de toute façon, c'est pas un jeu dont l'intérêt réside dans le fait de faire des sessions de 10 heures en une journée, même si parfois c'est très agréable, hein, tu passes 10 heures à faire de la pêche, tu rembourses ton prêt, blablabla, mais c'est agréable aussi ce côté ma petite session quotidienne. C'est vraiment un des premiers jeux quand il est sorti, pour pas dire le premier parce que j'ai une très mauvaise mémoire, mais en tout cas c'est moi personnellement un des premiers jeux qui m'a fait cette envie de revenir tous les jours à ma petite session, mon petit rendez-vous quotidien en fait finalement. Et je trouvais ça très intéressant et c'est dommage de ne pas garder cette manière de jouer. Alors, Farno nous dit qu'il est impatient d'écouter cet épisode et qu'il a des petites questions pour nous. Comment on peut choisir nos habitants sur notre île?
Alors, quand vous allez sur des îles mystères, donc vous pouvez vous acheter des tickets avec justement les fameux Miles Nook, quand vous vous rendez sur des îles mystères, vous allez croiser régulièrement des petits personnages et en discutant avec eux, vous allez pouvoir les inviter à venir sur votre île.
Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas une compatibilité aussi avec les Amiibo, avec les cartes Amiibo notamment?
Alors, il y a une compatibilité, mais pas pour ça, d'après ce que je sais.
Ça sert à quoi?
à invoquer les personnages dans un... C'est un peu spoilant pour toi, Lou, mais c'est à invoquer...
Alors, on ne dit rien.
Ok, très bien. Alors, ça sert à invoquer des personnages, mais tu ne sais pas à quoi. Voilà.
Très bien, mais donc on ne peut pas les invoquer comme ça dans le village.
Non.
Est-ce qu'on peut déplacer les maisons par la suite ?
Oui, mais ça coûte cher.
Alors, j'en suis pas encore là, ou alors j'ai pas trouvé qu'il était la fonctionnalité pour le faire, mais...
C'est pas tout de suite dans le jeu, moi je me suis spoilé entre guillemets parce que j'ai des copains qui ont justement voyagé dans le temps.
Ok.
Et qui donc ont débloqué des fonctionnalités que je n'ai pas encore. Mais je sais que c'est possible et que ça coûte cher, donc le mieux c'est quand même d'être sûr où vous voulez mettre la maison de votre nouvel habitant pour éviter de dépenser de l'argent inutilement par la suite.
J'imagine qu'on le débloque une fois que le village est plein en fait, tout bêtement. Est-il possible de renvoyer un habitant ?
Oui, vous pouvez aller. Effectivement, vous pouvez vous plaindre auprès de la mairie d'un habitant.
Ah.
Et du coup, il sera incité à déménager. Je ne sais pas s'il déménage tout seul, comme dans les précédents opus. Puisque dans les précédents opus, quand vous ne vous intéressiez pas assez à un habitant, on va dire, que vous ne développiez pas assez votre amitié avec lui, il pouvait se dire « tiens, je déménage ». Alors vous pouviez le retenir en lui disant « mais non, reste ». Et il disait « ok, je reste ». Mais vous pouviez aussi complètement l'ignorer et il finissait par déménager. Donc je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, je sais qu'il y a un système via la mairie où vous pouvez vous plaindre d'un habitant et du coup, il sera incité à partir.
Ah bah, super.
Sauvage, hein.
Je crois que c'était déjà le cas avant, en fait, avec la mairie dans la version 3DS, si je me souviens bien.
C'est le seul cas, effectivement, oui.
Alors, 20 Cent nous dit « Je suis joueur 2 de la console. » Déjà, toutes mes condoléances.
Voilà.
« Je suis content de partager la même île que ma compagne, mais je ne peux pas avancer la quête principale. J'ai l'impression de louper beaucoup de trucs. J'ai réfléchi à racheter une Switch, mais sauvegarde non transférable. C'est bien compliqué. » Donc, ça rejoint ce qu'on disait.
Totalement.
Effectivement, si vous voulez profiter à fond du jeu, il vaut mieux avoir chacun sa Switch. Mais bon,
c'est ça, dès le départ, oui.
C'est quand même un sacré investissement. Ou alors, essaie de piquer le compte de ta compagne, du coup, 20 Cent. Meilleure astuce qu'on peut... Est-ce qu'il peut se plaindre à la mairie pour virer sa compagne ?
Non, je pense pas.
Je pense pas, non.
Ah, ben,
surtout si elle est déléguée insulaire, ça la fout mal.
T'imagines ? Pétition. Essaie de faire circuler une pétition auprès des animaux, on ne sait jamais.
Non, je crois justement que... Alors, j'ai exploré un petit peu les options de sauvegarde et dans mon souvenir, Tom Nook t'indique que si t'essaies de dégager le délégué insulaire, ah non, en fait, tu dois littéralement effacer le fichier de sauvegarde dans le menu principal de la Switch.
C'est chaud.
D'accord. Très bien. Thomas nous dit qu'il a très peu de temps libre. Même là, il est en train de télétravailler et s'occupe de ses 3 enfants. Donc bon courage, Thomas. Il a beaucoup aimé l'épisode New Leaf, très feel good. Il essaie de résister à l'appel de ce nouvel Animal Crossing. S'il vous plaît, découragez-moi de l'acheter, nous dit-il.
C'est dur.
C'est... Si tu veux, la question principale, c'est... Il y a 2 questions principales. Premièrement, est-ce que tu as suffisamment d'argent pour pouvoir avoir autant de consoles et de versions du jeu que de gens qui voudront y jouer pleinement chez toi ? Ça peut être un facteur décourageant. Et l'autre facteur décourageant, c'est est-ce que la boucle de gameplay qui est très relax, pépouze et en définitive, après plusieurs semaines... c'est juste toi sur une île avec un peu de personnalisation, avec un peu de si et ça à faire, des petites missions de coursier à faire, des petits événements quelques fois par année et des musées à remplir principalement et ta maison à accommoder comme tu veux. C'est ce genre de choses là, donc il faut vraiment que ça te plaise parce que il y a pas 15 000 autres trucs à faire à côté. Donc ça, c'est le facteur qui peut être décourageant ou qui peut, on va dire, créer une forme de regret chez quelqu'un qui prendra le jeu juste parce que c'est la hype en ce moment.
Alors moi, je vais me faire l'avocat du diable. J'ai envie de dire déjà, joue-y seul. Si tu veux pas te poser le problème du nombre de versions de gens qui jouent dessus.
Bah oui.
Joue-y seul, c'est une très très bonne idée. Et surtout, c'est que pour moi, je trouve que cette recette change vraiment, ou en tout cas est tellement plus approfondi avec plein de petits détails, hein, comme on l'a dit, le craft, la personnalisation de l'île, mais même graphiquement. Enfin, je trouve que c'est une version tellement évoluée qu'on dirait vraiment que c'est pas un nouveau jeu, mais on dirait presque un nouveau jeu. Donc ça mérite le coup justement de s'y plonger encore plus. Et toi, Lucille, du coup, tu veux ajouter quelque chose ?
J'ai pas d'argument contre, surtout en ce moment. Mis à part peut-être le temps, parce qu'effectivement, c'est un jeu. Si tu veux pouvoir avancer régulièrement, c'est bien de pouvoir y consacrer, comme je disais, entre 30 minutes, 60 minutes par jour à peu près. Voilà, donc c'est une question de temps à y consacrer, et à la limite c'est le seul point négatif que je pourrais trouver au jeu, parce que surtout en ce moment où on est tous confinés chez nous, ça fait tellement du bien de jouer à Animal Crossing que j'aurais du mal à trouver des défauts, quoi.
Allez, dernière question, est-ce qu'on a une bonne alternative ou un clone PC à recommander?
Tout le monde parle de Stardew Valley et tout le monde a raison, même si ça penche un peu plus du côté
d'Harvest Moon,
exactement, du simulateur de ferme. On y retrouve pas mal de traits et, alors, pour le coup, des interactions plus scriptées et plus poussées et plus scénarisées avec les autres villageoises et villageois de la localité à côté. Voilà.
Mais alors, je recommande chaudement aussi Stardew Valley, qui est un excellent jeu. Mmh. Et si vous voulez vraiment vous plonger dans Animal Crossing et que vous n'avez pas de Switch, soyez un peu patient parce qu'il y a un clone qui va sortir qui s'appelle Ocolife. Voilà, qui a été annoncé pour courant 2020, donc j'ai pas regardé s'il y avait une date précise depuis la dernière fois que je me suis renseignée, mais vous tapez Oko, H-O-2-K-O Life sur votre moteur de recherche, vous allez tomber sur une bande-annonce et c'est du Animal Crossing tout craché.
On te sent sur les starting blocks pour y jouer, ma chère Lucille.
Bah écoute, je suis curieuse.
Ah oui, c'est le thème du Animal Crossing là.
C'est exactement ça.
Très bien. Alors, n'oubliez pas en tout cas que vous pouvez envoyer vos propres questions à lacartouche@blueprint.pm ou @lacartouchebp sur Twitter. Sur ce compte, on y publie justement en avance la liste de nos prochains sujets afin que vous puissiez nous faire parler de ce qui vous intéresse. Et c'est maintenant la fin de cet épisode. La cartouche, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Lucille, de nous avoir accompagnés.
Merci de m'avoir accueilli.
Merci beaucoup, Yann.
Mais toujours un plaisir.
On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, abonnez-vous à ce podcast pour ne manquer aucun numéro de l'émission si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez aussi nous soutenir en parlant de la cartouche autour de vous. Ciao.
Ciao.
À bientôt.
Vous en voulez toujours plus? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Durant toute la durée du confinement, les bonus Patreon de Blueprint sont disponibles dans un flux podcast qu'on a décidé d'appeler Blueprint Soto Pirate. Vous le retrouvez en lien sur le blog de Blueprint, sur blueprint.pm, mais aussi en cherchant les mots Blueprint Pirate sur l'application de podcast de votre choix. Il n'y a plus qu'à s'abonner, à écouter et à kiffer. Allez, à bientôt!